des plans sociaux qui se multiplient, des enseignes qui ferment, des postes supprimés par milliers. Face à la récession qui s'annonce, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, demande aux Français de faire preuve de patriotisme en dépensant.
Pendant cette crise du Covid, on a tout de même épargné. C'est une surépargne. Ce n'est pas une épargne de précaution, c'est simplement qu'on n'avait pas l'occasion de consommer. Si on la consomme, bien sûr, que ça vient également abonder la croissance.
Consommer pour faire tourner à nouveau les usines arrêtées ou au ralenti pendant le confinement. Bon pour l'économie, mais quid de l'écologie ? Après des semaines de confinement, certains Français aspirent à consommer moins ou tout du moins différemment. À l'image de ces riverains, qui privilégient désormais les circuits courts pour l'achat de leurs légumes.
C'est sympa de venir directement chercher ses fruits et ses légumes, en fait. Et puis bon, pour la petite, ça lui fait une sortie. Et puis ça lui montre comment ça pousse. C'est quand même mieux que d'aller chercher directement au magasin.
Pas de déchets, c'est du local, on ne peut plus local. Puis il fait beau, donc c'est sympa.
Les envies de sobriété et de préservation de la nature se heurtent-elles à la nécessité de relancer l'économie ? Peut-on consommer responsable et préserver les emplois ? Comment résoudre cette équation qui semble insoluble ?
La question est la suivante. Si on consomme moins, on produira moins et on travaillera donc moins. Faut-il débattre à nouveau de la baisse du temps de travail ? Et c'est vrai que les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont voté et adopté 150 propositions à l'exception d'une, celle qui proposait de baisser la durée du travail à 28 heures par semaine. C'est inimaginable aujourd'hui comme proposition, Lucille Schmitt ?
C'est inimaginable lorsqu'on sort d'un moment d'inactivité forcée avec le confinement. Mais lorsqu'on pose la question, ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout de la question et de voir ce que signifie partager le temps de travail. Je rappelle que partager le temps de travail, c'est une question qui existe depuis qu'on travaille et que lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, par exemple en 1981, la question du partage du travail s'est posée tout de suite. Donc ça révèle quelque chose sur le fait qu'on est encore dans la contrainte d'un modèle de pensée qui fait que, si j'ai bien compris ce qu'ont dit les citoyens de la Convention, ils ont dit qu'on n'aurait pas eu l'air sérieux si on avait voté cette mesure de ne travailler que 28 heures par semaine. Je crois que le sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie avoir l'air sérieux ? Est-ce que c'est se poser, donc comme je disais tout à l'heure, cette question de l'avenir ? Est-ce que c'est se poser la question du partage de travail avec les nouvelles générations ? Toute la question, c'est au fond le temps qu'on accorde, à l'idée de gagner de l'argent, à l'idée d'imaginer l'avenir du monde. Je pense que l'écologie implique de relativiser la place de l'argent et certainement de donner une place à tout ce qu'on appelle les activités bénévoles. Travailler pour gagner sa vie, c'est pas forcément toujours travailler au sens écologique.
Chiffre qui doit faire rêver ceux qui veulent relancer l'économie, 55 milliards, c'est la surépargne des Français pendant le confinement, c'est-à-dire ce que vous et moi, nous tous, n'avons pas dépensé quand nous étions bloqués chez nous. Question pour vous, Philippe Moati, ça fait 8 semaines que le confinement a cessé. Est-ce que nous avons commencé à dépenser ces 55 milliards utiles à l'économie ?
Pour partie seulement, et par ailleurs, certains ont continué d'accumuler. En fait, si on regarde comment se sont passées les premières semaines de déconfinement dans le commerce, en termes de chiffre d'affaires, on commence à retrouver des niveaux normaux, avec de très grandes disparités selon les secteurs. Le secteur champion, c'est le bricolage, parce qu'on a été confiné à la maison, on a eu le temps de voir tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'on avait envie de faire, et des secteurs qui sont à la traîne, qui étaient déjà mal en point, tels que l'habillement, par exemple. Donc il y a une sorte de retour à la normale en chiffre d'affaires. Par contre, quand dans nos enquêtes, on demande aux gens « Est-ce que vous êtes allé plus ou moins dans les magasins qu'avant le confinement ?», on a encore 40% des Français qui nous disent « Y aller moins qu'avant le confinement ». Ça veut dire que ceux qui se sont déplacés ont acheté. Donc le taux de transformation, comme on dit, est plus important. On achète parce que se déplacer et vivre une expérience dans le commerce aujourd'hui, c'est pas très drôle. Donc quand on y va, on achète avec un ticket moyen élevé. Et surtout, quand on interroge les gens « Est-ce que vous avez acheté par nécessité ou par plaisir ?», à 71% fin juin, ils nous disaient encore que c'était des achats de nécessité. Donc c'est du rattrapage en quelque sorte, et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ne dire rien de ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent en matière de consommation.
Jean-Marc Daniel, mais dépenser, consommer, acheter, c'est presque un devoir civique par rapport à la collectivité en ce moment.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est plutôt un retour à la vie normale, c'est de constater qu'on revient à une vie normale. Et donc,
mais l'économie a besoin de ces dépenses, en ce sens c'est un devoir.
Oui, elle a besoin de dépenses, mais elle a aussi besoin de travail. C'est-à-dire que l'origine de toute la richesse, c'est quand même du travail. Hein. C'est réduire le temps de travail, si le travail n'est pas plus efficace, ça crée un appauvrissement. Considérer qu'il faut dépenser s'il n'y a pas du travail en regard. Il y a un économiste qui fonde un peu tous les raisonnements économiques et l'enseignement de l'économie à la surface de la planète, qui est Nicolas Gregory Mankiw. Et il résume l'économie en 10 points. Et son point 8, c'est que on ne peut dépenser que si on produit au préalable. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est plutôt de remettre les gens dans les usines que de les remettre dans les magasins. Alors après, cette dépense, elle va avoir lieu parce que, comme on l'a dit, hein, les 55 milliards que vous avez qualifiés d'épargne, c'est assez naturel de dire ça, mais l'épargne, c'est un geste où on se projette dans l'avenir. Là, les Français ne se sont pas projetés dans l'avenir, on les a empêchés d'aller dans les magasins. Donc, ils n'avaient pas décidé de mettre cet argent de côté, ils l'ont à disposition, et dès qu'ils peuvent le redépenser, ils le redépensent. Simplement, il y a des secteurs, effectivement, où ils ne vont pas le redépenser, notamment le transport aérien, notamment un certain nombre d'activités qui sont encore confinées.
C'est que ça pour vous, c'est que parce que ces activités sont confinées qu'on ne dépense pas dedans. C'est pas du tout un réflexe.
Non, je pense que tant qu'il y aura encore l'impression que le confinement existe et que le confinement est une menace, parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles aussi les gens font preuve d'un certain ententisme, c'est le fait qu'on recommence à parler de confinement, alors on parle de l'Espagne qui se remet à confiner. Il y a des rumeurs comme quoi en France on se pose des questions sur Lyon. Donc je pense que tant que les Français n'auront pas une lisibilité, ils ne se précipiteront pas dans les magasins. Mais ils ne sont pas dans une logique, encore une fois, d'épargne. Épargner, c'est se projeter dans le long terme et dire « je mets de l'argent de côté pour que dans 5, 10 ans, je puisse récupérer du pouvoir d'achat ».
Monsieur Schmitt, est-ce qu'il peut y avoir une évolution dans la manière de consommer des Français? Est-ce que, voilà, on ne va pas reprendre l'avion parce qu'il n'y a pas d'avion ou parce qu'on nous a dit, c'est le Flixcam, qu'il valait mieux ne pas prendre l'avion ou pas trop prendre l'avion pour préserver la planète? Est-ce que le confinement et la crise de la pandémie auront été l'occasion d'une réévaluation de nos habitudes de consommation?
En fait, ce qui se passe, c'est quand on est obligé de rester chez soi, on n'est pas seulement en train de se dire « Ah, je vais me précipiter dans un magasin quand je ne serai plus confiné ». Le sujet, c'est qu'à mon sens, on a eu le temps aussi de réfléchir et sans doute de modifier. C'est ce que dit le philosophe Bruno Latour. Il a invité à abandonner ou à garder certains gestes à la sortie du confinement. Comment on donne un sens au fait d'avoir été obligé de rester chez soi? Et je pense que la question, par exemple, d'aller moins dans les magasins ou tout le mouvement de la jeunesse autour de ce qu'on appelle le rejet de la fast fashion, c'est-à-dire les magasins H&M, la question de ne plus s'habiller, ne plus changer de robe 4 fois.
Ça s'appelle le fast fashion, en fait, c'est ça.
C'est ça, le fast fashion,
c'est la mode rapide qui est très nuisible à l'environnement.
C'est la mode rapide, voilà. Très nuisible à l'environnement, avec des collections qui sont faites chaque semaine. Je parle d'une chose que je ne connais pas, hein, mais je connais de jeunes femmes qui ont remettent en cause cette question de la fast fashion. Et je pense que c'est assez intéressant parce que je crois que le confinement a accéléré certaines choses. Ça a ralenti le travail, c'est clair. Ça a été un moment de décroissance obligatoire. Mais ça a obligé, quelque part, à changer la hiérarchie de nos priorités. Et je crois que sur la consommation et le fait de se reprécipiter dans les magasins, je pense qu'on se reprécipite moins aussi parce qu'on se dit, est-ce que ça a vraiment un sens.
Alors, que les robots soient un atout en termes de compétitivité, les machines en général, on connaît ça depuis les premières révolutions industrielles. On n'avait pas encore entendu dire que les robots, c'était bien pour l'environnement. A, est-ce que c'est vrai? Deux, est-ce que c'est un discours qui va durer et s'implanter?
On ne parle pas que de robots ici. Il parle effectivement de recalibrer notre économie pour la rendre compatible avec les enjeux environnementaux.
Et je crois que ça passe par les robots.
Entre autres, mais je crois qu'il ne faut pas polariser sur ce point. On a un défi beaucoup plus général à relever. Et je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de compétitivité, je reprends un terme d'économiste, il n'y aura pas de compétitivité demain si on n'a pas réussi à décarboner la production. Donc je pense qu'effectivement, c'est un axe qu'il faut privilégier. La relance, elle doit passer aussi par la transformation de notre économie. Le problème, c'est que autant remettre une économie en marche, c'est quasiment appuyer sur un bouton dès lors que les salariés peuvent revenir travailler. Changer son mode de fonctionnement, ben, ça va prendre des mois et des années. Donc, il y a ce qu'on disait au démarrage, hein, ouais. Il y a un problème de hiérarchisation des priorités dans le temps. Dans l'immédiat, relancer la machine pour éviter la catastrophe de l'accroissement du chômage, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir. Mais en même temps, on engage dès maintenant un chantier de long terme qui va consister à remodeler notre économie pour la remettre sur les rails, à la fois de la compétitivité de demain et des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Car il faut qu'on en reparle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez annoncé. Il y a une grande partie de l'opinion qui a progressé durant la crise, qui est en attente d'autre chose, d'une autre société et d'une autre manière de consommer.
Jean-Marc Daniel, quand même un chiffre, 17 000 emplois supprimés chez Airbus, 10 000 chez Air France. C'est bien beau d'être compétitif et écolo à la fois. Dans le sujet qu'on a montré tout à l'heure en début d'émission, on opposait les gens qui vont faire leurs courses directement dans les champs à des caissières ou des caissiers de la grande distribution. Est-ce qu'une économie peut se passer des êtres humains au prétexte de devenir verte et compétitive?
Non, elle ne se passera pas d'êtres humains. En revanche, il y a beaucoup d'emplois qui changent et qui disparaissent. Et on parle beaucoup de réindustrialiser, relocaliser, et on met en avant le fait qu'il y avait 6 millions d'emplois dans l'industrie en 1975, et là, en 2019, on est descendu pour la première fois en dessous de 3 millions. Ça veut pas dire
que... Mais en même temps, on nous dit que ce n'était pas une bonne idée, que pendant la crise de la pandémie, oui, on nous a dit qu'on n'aurait peut-être pas dû tout abandonner.
Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut réindustrialiser. Comme si ces 3 millions d'emplois qui avaient disparu avaient correspondu à des activités qui avaient disparu. Ça a correspondu, on parle de robots, au fait que des parties de plus en plus importantes de l'activité industrielle sont robotisées, sont assumées maintenant par des automates et des machines. Et donc le progrès technique est effectivement un moyen de décarboner l'industrie, et c'est un moyen d'améliorer la situation globale, c'est un moyen effectivement d'avancer vers davantage d'écologie. Concrètement, là aussi, vous prenez Londres au moment de la révolution industrielle dans les années 1880, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait une pollution pas possible, que ce qui a fait disparaître la pollution, c'est effectivement le progrès technique. Je rappelle que le Royaume-Uni s'est constitué sur le charbon. Il y avait 1 200 000 mineurs de charbon en 1900. Maintenant, il n'y en a plus aucun. Alors, tout le monde se souvient des grandes grèves pour défendre le charbon contre Margaret Thatcher. Qu'est-ce qui s'est passé? L'économie britannique a changé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus d'emplois au Royaume-Uni.
Intéressant. Je crois que le sujet qui est posé, c'est qu'on a tous assez envie d'être vertueux et en même temps de ne pas se passer de certains plaisirs. Je crois qu'il ne faut pas imaginer que l'écologie, c'est le monde du peine à jouir. En revanche, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et donc, le sujet qui est devant nous, c'est la question de ce qu'on appelle l'écologie populaire, qui est sans doute une manière, d'ailleurs très maladroite, de dire les choses. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut mettre le fait de bien manger, de moins consommer et de consommer d'une manière plus qualitative en choisissant ce qu'on a envie de consommer? La question de la reconversion des métiers dont on nous dit qu'ils sont inutiles. Par exemple, aujourd'hui, reconverti, si vous êtes un ouvrier qui travaille dans une vieille centrale thermique de EDF, comment vous allez faire? Comment vous allez trouver votre place? Vous avez sûrement envie d'être écologiste, mais vous n'avez pas envie d'être au chômage. Et donc, le sujet d'organiser la transition, la transformation verte de notre économie, c'est d'organiser aussi la conversion sociale et de redonner une place, en ce sens, on verra ce que fait le nouveau gouvernement, oui, au lien entre écologie et question du travail et question sociale. Moi, je pense que c'est fondamental, et c'est pour ça que les écologistes ont gagné dans les territoires en étant associés à la gauche, parce qu'il y a une attente sociale qui est liée à la question écologique.
Depuis une dizaine d'années, on a construit plus de mètres carrés que la croissance de la consommation des ménages. Donc, clairement, on est en situation de surcapacité. Donc, à un moment, il faut arrêter. Vous avez vu que les chaînes de distribution sont en train de tomber les unes après les autres. Donc, mettre un peu d'ordre, mettre un arbitre au milieu du jeu pour calmer un peu les ardeurs.
Mais vous imaginez, pardonnez-moi, vous imaginez ces zones retournées à l'agriculture? C'est un des thèmes des écologistes aujourd'hui, pas seulement des décroissants. Est-ce que vous imaginez que l'horloge puisse partir en marche arrière?
Non, là, on parle d'un moratoire, on parle d'arrêter un processus, on ne parle pas de revenir en arrière.
Mais un moratoire, c'est du pipeau. Est-ce qu'on est dans l'amorce d'une révolution?
On est dans l'amorce d'une révolution commerciale, j'en suis absolument convaincu. J'ai même un livre qui s'intitule « La nouvelle révolution commerciale ». Mais cette révolution commerciale ne va pas consister à démanteler les uns après les autres les centres commerciaux et les grandes surfaces. Il y a la même chose dans nos études, il y a eu une poussée effectivement de la sensibilité environnementale chez les plus jeunes, mais vraiment très très forte en l'espace de 18 mois en quelque sorte, hein, avant la crise sanitaire déjà. Et quand on essaye de sonder la fibre consumériste des personnes, on voit que les jeunes sont plus consuméristes que leurs aînés. Voilà. Donc il y a une sorte de paradoxe qui se résout peut-être en partie par le fait que ça ne veut pas dire grand-chose de parler des jeunes. Quand on regarde un peu à la loupe, il y a une vraie différence entre les jeunes éduqués, c'est plutôt ceux-là qu'on voit dans les manifestations, dans les marches pour le climat, et les jeunes qui ne le sont pas. Et là, la moyennisation, finalement, crée des paradoxes, tels que ceux que vous avez soulignés.
Jean-Marc Daniel, face à toutes ces injonctions contradictoires et les contradictions qui passent à travers chacun d'entre nous, pas seulement les jeunes, est-ce qu'on a besoin de ce qu'on appelait autrefois le plan, c'est-à-dire d'une volonté de l'État qui, par des taxes, la taxe carbone, par des aides industrielles ciblées, remodèlerait notre manière de produire et de consommer? Est-ce qu'on est en besoin de dirigisme aujourd'hui?
Non, je ne crois pas. En revanche, que l'État ait une politique écologique, je dis oui. Mais en revanche, faire du dirigisme, nous dire où on doit aller acheter, ce que l'on doit acheter, cela me paraît très dangereux.
Est-ce que ce n'est pas l'objet, pardonnez-moi, par exemple, de la taxe carbone qui rendrait plus cher les produits carbonés, oui, qui réorienterait notre consommation?
Alors ça, c'est différent. C'est-à-dire que vous pouvez inciter les gens à avoir un certain type de consommation. Et donc, effectivement, le rôle de la taxe carbone, de même que la taxe sur le tabac pour objet de faire en sorte que vous consommiez moins de tabac. Donc, vous avez un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mis en place pour réorienter et canaliser votre consommation. Mais dire, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit.